Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
On va aujourd'hui avoir un sujet robotique. C'est pas tous les jours, franchement, ça fait...
Non, et ça fait plaisir.
Combien de temps on n'a pas fait ça? Ça fait plaisir surtout à toi.
Ouais, j'avoue, j'ai un petit faible.
Bah non, mais c'est... Voilà, c'est...
C'est le bas niveau, comme on dit.
Partie de ce que tu suis de près, contrairement à moi. Mais c'est pas... Moi, je jouerais le novice. Et on a la chance aujourd'hui de recevoir un invité très spécial, Renaud Hetz. Tu es le cofondateur de Exotech. Est-ce que c'est ta première fois sur Twitch, déjà?
Oui, alors à moitié, on a fait un hackathon de robotique il y a 2 semaines qui était diffusé sur Twitch avec plusieurs dizaines de gens qui le suivent en live. Non, on peut dire que c'est à peu près la première fois en vrai. Ah, quoi.
Ça compte, le premier live compte.
Mais ce qui est marrant, c'est que leur live sur Twitch, c'est aussi. Les animateurs, c'est des employés de...
C'est des gens d'Exotech.
C'est que des gens d'Exotech qui font ce truc.
Exactement.
C'est trop marrant, en mode, qui veut commenter? Allez, c'est parti, on fait des commentaires de battle de robots, voilà. Je trouve ça incroyable.
Mais alors, qu'est-ce que c'est? Parce que Mathieu, on a
vous
même...
Vous êtes super fort, vous avez réussi à retrouver. Vous l'aviez préparé, non?
Oui.
Ah, c'est vrai?
Bah, il était dans... Il y a la chaîne Twitch quelque part.
Et donc, quel est le concept de ce truc?
Donc, bah, on est passionné de robotique et on aime bien partager, à la fois faire découvrir ce qu'on fait, mais aussi apprendre un peu des autres qui sont passionnés de robotique. Et donc là, maintenant, c'est la 2e édition et on espère bien en faire plein d'autres de ce qu'on appelle l'Exolégende. L'Exolégende, c'est un hackathon de robotique. Donc, comme un hackathon classique, sur 3 jours, on arrive le vendredi matin, les compétitions sont à partir du dimanche et les finales dimanche après-midi. Et le principe, ça va être des, on pourrait dire combats, 2 robots contre 2 robots. On reçoit quand on arrive le robot en kit, il faut le monter et ensuite c'est avant tout de la programmation, donc il faut programmer son robot pour à 2 réussir à faire un max de points par rapport à l'adversaire, sachant qu'il y a 2 façons de gagner, faire des points, donc il faut se déplacer dans un labyrinthe, mais on peut crever le ballon de l'adversaire, donc si on arrive avec sa pointe à le crever, on l'immobilise et du coup on arrive à marquer plus de points. Donc un côté combat, un côté intelligence, plus un côté collaboratif où t'es
c'est
à 2,
trop bien.
Ça nous plaisait.
C'est vraiment, c'est les battles de Mario Kart,
c'est ça.
J'ai une anecdote où un ancien collègue a participé à la précédente version et il était pas très bon en programmation et tout. Du coup, il a tout mis sur l'arme. Il était mécanicien plutôt, ouais. Lui, de formation. Ouais. Donc, il a fait une arme incroyable juste pour crever le ballon des autres.
C'est marrant.
Une strat. Non,
c'est parce qu'effectivement, le format hackathon, il est assez connu, mais je me suis même pas dit que c'était possible en robotique parce que marche comment ils amènent. Genre, t'amènes ton ordi et une valise de matos.
Non, t'amènes que ton ordi et donc quand t'arrives, tu reçois une petite boîte dans laquelle il y a tout le kit hardware pour que tu puisses tout monter par toi-même. Et après, sur place, il y a de quoi un petit peu bricoler. Le robot, il est globalement standard. Ce que tu customises, c'est ton arme.
Ah oui.
Mais bon, ça peut aller d'un trombone à un pic à brochette à... Il y en a effectivement qui s'amusent et qui essayent de faire des sulfateuses.
Mais alors, et du coup, le robot, il est standard, mais tu le programmes comme tu veux, du coup, c'est ce qui...
Donc, tu as 2 robots, effectivement. Tu vas programmer à l'intérieur. Nous, ce qu'on a programmé, c'est l'arbitre. Donc, au-dessus, il y a une caméra qui filme les robots et donc l'arbitre est automatique.
Okay.
Donc, ça regarde les robots, ça regarde où ils passent, ça affecte les points. Si tu n'as plus ton ballon, ça t'immobilise, tu ne bouges plus, etc., etc. Et donc, en live, on voit les points bouger et on sait qu'est-ce qui a gagné à la fin. Par contre, dans les robots, le code dans les robots, c'est fait par les gens.
C'est ça. C'est là où la battle se fait, hein, en gros.
Tout à fait.
Là, et sur l'arme, quoi.
Et c'est marrant parce qu'on voit des gens qui viennent du monde informatique et qui découvrent. Et qui découvrent notamment quand tu fais, on pourra un peu en parler, mais de la programmation sur un robot, tu atteins le monde réel. Et le monde réel, il réagit pas. D'habitude, quand on fait if condition, zen action, si on a la même condition, ça fait 2 fois la même chose. Dans le monde réel, je glisse, j'ai de l'illumination, j'ai, etc. Donc, voilà, réussir à un peu à modéliser ce qu'il y a autour et apprendre à gérer tout ça, c'est super intéressant.
Franchement, j'ai trop envie de le faire.
Ben, ceux qui écoutent, tout le monde, vous êtes les bienvenus pour l'édition 3 l'année prochaine.
Qui sera l'année prochaine, ok, trop trop cool. Sans plus attendre, après ces petites digressions, on va rentrer évidemment dans le vif du sujet, ce qui nous rassemble aujourd'hui.
Merci à Basti, j'ai l'impression.
C'est ça, avant que je commence.
Ouais, il a dû faire un raid que je n'ai pas vu,
merci.
Mais merci beaucoup, c'est un collègue streamer qui nous envoie son audience.
Exactement, donc bienvenue à tous, installez-vous. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Renaud Hetz, cofondateur et directeur technique de Exotech. Vous connaissez peut-être pas ce nom. Moi, j'avoue, je ne connaissais pas en fait.
C'est grave.
Après, j'ai réalisé à quel point en fait c'est un mastodonte quand même. Exotech, c'est absolument pas rien. C'est une des plus grosses licornes, comme on dit française. Vous avez eu un parcours complètement dingue. Et voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, ils sont un peu, on peut le dire, vous êtes un peu derrière le secret de la livraison en 24 heures. Puisque vous conceptualisez des robots en forme de petites voitures télécommandées capables d'aller chercher des colis dans des entrepôts à plus de 12 mètres de hauteur. Donc c'est vraiment en 3D, en un clin d'œil. En termes de vitesse de pointe, on est sur quoi à peu près ?
On est 4 mètres par seconde, donc ça fait un peu moins de 20 km/h. Un jogging bien réveillé, quoi.
Si, en fait, si, c'est comme ça, on, ça paraît pas tant que ça. On se dit, une voiture, ça va vite.
4 mètres par seconde, c'est énorme.
Ouais, vous allez voir, en fait, vous allez voir les vidéos, c'est vraiment impressionnant. Rassurez-vous, tout ça est dans des zones sécurisées. On va en parler, justement. Mais c'est une technologie de pointe qui, pour vous donner un ordre d'idée, est, on peut le dire sans sourciller, supérieure à la plupart des trucs qui existent, notamment ce qu'il y a chez Amazon. C'est quand même pareil, faut le dire. Peut-être que toi, dans votre humilité, vous le direz pas, mais nous, on le dit. C'est complètement fou. On rentrera dans le détail technique de pourquoi justement Amazon n'a pas ce genre d'outils. Et vous, boîte française, vous êtes en mesure de le faire. On va vous expliquer. On va essayer de. Moi, je vais poser mes questions tout simplement. J'en ai plein qui me viennent. Comment est-ce qu'on fait pour que des robots qui vont à cette vitesse se rentrent pas dedans, par exemple? Est-ce qu'il y a des crash tests comme en voiture? Est-ce que vous les envoyez à haute vitesse? C'est quoi les technologies? Si demain je voulais monter une boîte de cette ampleur, c'est quoi technologiquement ce qui se cache derrière? Tu nous diras ce que tu peux dire, ce que tu ne peux pas dire, ce qui est la sauce secrète aussi. Et aussi sur le plan théorique des algorithmes, parce que c'est une part hyper importante de votre secret. J'ai cru comprendre, et c'est vraiment pas mon domaine, mais tu vas pouvoir nous expliquer, j'ai cru comprendre que, en fait, il y avait des briques logiques qui sont assez similaires à ce que ferait, par exemple, un GPS pour calculer un déplacement d'un point A à un point B, ou dans des jeux vidéo, du qu'on appelle le pathfinding. Il y a des... On va un peu parler, par exemple, de théorie des graphes, des choses comme ça, sans rentrer dans le détail, mais je suis hyper curieux de voir qu'est-ce qui fait que toute cette magie de robot et cette effervescence que toi tu as vue, Mathieu, puisque tu es allé sur place.
Oui.
Comment tout ça est possible, en fait? Parce que ça paraît assez fascinant. Et surtout, on reviendra sur la progression d'une boîte française quand même, parce que c'est pas tous les jours que... Je sais pas si on a... Bon, on peut en citer beaucoup d'autres, des boîtes de cette taille qui font du hardware en robotique de classe mondiale. Il y en a d'autres certainement, mais...
Moi, c'est surtout de mon propre expérience, la rapidité à laquelle vous êtes allé. Je vous ai connu, vous deviez être de nom, 30 environ, c'était dans les années 2017, je dirais. Vous étiez une boîte à côté de la mienne. Et là, je vous retrouve quelques années plus tard.
Sur la Lune.
Et c'est vraiment une immense boîte qui est partout. Moi, c'est vraiment la vitesse d'exécution qui m'a impressionné et le produit.
C'est clair, ça va être hyper intéressant. Vous avez vu, le programme est chargé, on a beaucoup de sujets à traiter.
On va me redire les questions dans l'ordre.
Pour vous donner un aperçu de tous les sujets. On est vraiment très honorés de faire cette collaboration commerciale du coup avec Exotech. C'est vraiment tout ce qu'on aime ici, on peut dire.
Ah oui.
Honnêtement. Donc merci Renaud d'être avec nous ce soir. Est-ce que déjà, pour nous remettre dans le contexte, tu peux nous expliquer avec tes mots ce que fait Exotech? C'est quoi vos solutions?
Oui. Alors j'imagine qu'il y aura peut-être quelques images qui passent, ça m'évitera d'avoir à tout mimer avec les mains. Mais donc, on va travailler pour les entrepôts logistiques de grands clients. Ça va donc servir à la fin à préparer des commandes qui vont arriver. Alors à plusieurs endroits, on va faire par exemple pour réapprovisionner des magasins. On travaille pour les magasins Uniqlo, on travaille pour Decathlon par exemple. Ça peut être pour du e-commerce, donc pour vous livrer chez vous. Notre premier client c'était Cdiscount par exemple. Ça peut être dans de la pharmacie, pour réapprovisionner des pharmacies. Ça peut être dans de l'alimentaire, on travaille pour Carrefour, on travaille pour Leclerc. Donc en fait il y a plein d'usages dont on se rend pas forcément compte parce qu'à la fin on a à disposition autour de nous, soit chez nous, soit dans les magasins autour, tout ça. Mais au final il y a eu tout un voyage qui a été fait depuis l'usine, souvent en bateau jusqu'au port, puis dans un entrepôt un peu régional, puis dans un entrepôt de livraison locale. Et à chaque fois, on va passer du conteneur à la palette, au carton, à l'article. Et nous, on est sur ce dernier moment de la chaîne logistique quand on passe du carton à l'article. Donc on va avoir dans les entrepôts de nos clients des flottes de robots. Donc typiquement, un petit entrepôt, c'est 20, un gros entrepôt, ça peut être 400 robots, qui vont manipuler les cartons.
400 robots.
Ça peut être 400 robots. Les plus gros qu'on ait fait, ça doit être 450 et c'est au Japon, pour Uniqlo justement. Et donc, on manipule ces cartons, on les amène dans le bon ordre pour ensuite prendre les articles, préparer les commandes et avoir ces commandes qui puissent être fabriquées, je dirais, qui puissent être conçues sans se tromper, en allant vite et sans prendre trop de place. Je pense que ce sera un peu les grands axes qui font que les logisticiens s'équipent avec ce genre de système.
Et donc, tu dis, c'est un truc qui est éprouvé. Vos premiers clients, vous les avez installés quand ?
Donc nous, on a commencé tout fin 2015, donc on est deux cofondateurs, avec Romain, mon cofondateur. On a vendu le premier système quelques mois après, en 2016, à Cdiscount. Et là, quand on l'a vendu, on avait vraiment juste un PowerPoint, un concept, quoi. Et on voulait voir combien ça résonnerait. Et ça a bien résonné avec Cdiscount, qui a dit, c'est de ça dont on a besoin, parce que à la fois c'est puissant, mais en même temps c'est flexible. Et ça, on pourra en reparler, mais c'est le gros avantage des robots par rapport à la mécanisation à l'ancienne, c'est que des robots, on en met plus, on en met moins, on peut changer par software les trajectoires, les fonctions au-dessus des robots, donc c'est vraiment quelque chose de très flexible. Donc ils ont dit, ça nous permettra de nous accompagner, parce qu'à Cdiscount, on n'a pas un business plan facile avec plus X% par an, on ne sait pas, donc il faut une technologie qui nous accompagne.
Ah oui, parce que ça paraît évident quand tu le dis, mais l'alternative au robot pour faire de l'automatisation,
il y en a deux. La première, c'est pousser des caddies.
Ouais.
Donc il y a des gens qui partent avec des papiers, qui poussent des caddies. C'est flexible, oui, mais par contre, c'est extrêmement lent, il y aura des problèmes de qualité et il y a des gros problèmes de juste fidéliser les gens qui font ça, parce que c'est pas des boulots agréables, faut marcher 15 km, c'est extrêmement difficile, donc les gens partent, reviennent, donc ça fait des gestions de ressources humaines qui sont quasi impossibles. L'autre alternative, si on veut un peu automatiser, c'est des choses qui sont nées il y a 20-30 ans dans la lignée des chaînes automobiles. Donc c'est des grosses chaînes industrielles où on met une bande, un ascenseur, etc. Donc on va faire des choses qui sont chouettes en termes de performance, mais qui sont complètement statiques. On boulonne, on met des moteurs partout, on utilise, alors je ne sais pas si c'est des choses qui vous parlent, un PLC, ça vous parle ou pas ?
Pas du tout.
C'est un peu l'ancêtre de l'ordinateur.
Ici.
Programmable Logic Computer, un truc dans ce goût-là, je dis peut-être un truc de faux. Et donc on fait du graph set, donc on fait une étape, une condition, une étape, une condition, donc on va coder une séquence. Et donc avec ça, à nouveau, on arrive à faire des séquences automatisées, mais complètement figées. C'est vraiment l'inverse de l'intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, on donne un problème et le software doit trouver la solution. Là, on doit donner la solution. On écrit exactement la séquence.
Et donc ça veut dire que si ma voiture, elle change de forme, ou je sais pas quoi, je dois reprogrammer ma chaîne de production.
Toutes les options ont été définies avant de lancer la première voiture. Et donc voilà, on a fait une chaîne qui a un nombre d'options finies et ça bougera pas jusqu'à la fin de la production de cette ligne de voiture. Ce qui est pas du tout le cas en logistique où on va lancer du same day delivery, des promotions, peut-être que je veux du cross canal où j'ai et des magasins et du e-commerce, etc. Ça c'est des trajectoires qui s'inscrivent
évidemment,
chaque
évidemment.
Année.
Non mais c'est passionnant de découvrir aussi ce monde ouais. Qui est quand même spécifique dans l'e-commerce avec un lexique hyper, hyper particulier. Et justement, quand on ne connaît pas, on a souvent une vision de cette industrie de l'extérieur qui a l'air hyper rodée en fait. Moi j'avoue, comme ça je me disais, oui tout l'e-commerce en fait, tout le truc est ultra robotisé depuis toujours, depuis longtemps, et il n'y a pas grand chose. On optimise de l'optimisation. À la limite, peut-être que naïf que je suis, je me disais, les Américains en tout cas, ils l'ont fait. Peut-être qu'en français, on est un peu en retard et tout. Mais en fait, c'est pas le cas.
Non, c'est vraiment pas encore le cas. Quand on s'est lancé, nous, donc fin 2015, il y avait encore 80% des entrepôts qui sont manuels, où on pousse des caddies, et encore plus aux États-Unis. Aux États-Unis, les mètres carrés, ça coûte pas cher si on se met loin des villes. La main-d'œuvre est pas très chère. Donc, beaucoup, beaucoup de choses manuelles. Encore à ce moment-là. Et la façon d'optimiser, c'était plus de, entre guillemets, mettre plus de fouet pour faire courir les humains. Donc, ils ont inventé la commande vocale, on met un casque sur la personne qui lui donne en temps réel les consignes.
Oui,
donc, il y a eu une tendance un peu à robotiser l'humain. Et je pense que là, nous, c'est pas ce qu'on a fait, c'est des robots et des humains. On robotise pas l'humain. L'humain, on lui garde les tâches intéressantes, la décision, le choix des stratégies à l'intérieur de l'entrepôt. Et le robot fait toute la partie déplacement, mouvement répétitif.
Et alors, justement, on va commencer à rentrer dans la technique, parce que vous avez pu observer depuis tout à l'heure des images qui sont, on dirait un film, honnêtement, hein, on dirait pas... Là, tu me dis que c'est un concept.
Ouais.
Ça, c'est, on dirait des vidéos concept générées en 3D, là. Mais non, c'est actuellement dans plein d'entrepôts, et je trouve ça dingue. Ouais. Toi qui y es allé, c'est comment ?
Déjà, ce qui est incroyable, c'est que j'ai cru comprendre que vous pouvez l'installer dans un entrepôt existant. Il faut pas construire un nouvel entrepôt de zéro. Donc déjà, ça, j'imagine que ça convainc pas mal les clients.
La plupart du temps, effectivement, c'est des projets où il va y avoir une transition sur un entrepôt qui fonctionne et on veut l'agrandir, on veut rajouter, etc. Donc oui, c'est souvent. Les étagères sont des étagères qui vont être compatibles avec les robots, mais à l'intérieur d'un entrepôt qui existe la plupart du temps.
Moi, j'ai trouvé que ça allait super vite et que les robots, ils se croisaient, mais Genre, j'avais peur qu'il se casse. Parce que quand on voit une vidéo où on n'en voit qu'un, on l'a vu un peu un moment sur la vidéo, parfois on voit des robots au loin qui traversent comme ça la route à n'importe quel robot. Et je suis en mode, ils sont fous.
Oui, parce que donc il y a des croisements.
Il faut imaginer plein de caisses comme dans un entrepôt qui va très très haut à 12 mètres de hauteur. Et après, des robots et des allées qui sont, j'imagine, les mêmes à chaque fois pour que le robot, il fasse un peu des mouvements rectilignes, mais aussi parfois, il tourne. Et il va comme sur un parking, il peut aller à gauche, à droite et tout. Et à un moment, d'un coup, hop, il va se lever, il va aller en l'air.
Ziou !
Et non, mais c'est genre... On est incapable de faire ça. Hein. Si t'es pas Spider-Man, c'est fini, quoi, ça. Et après, du coup, il ramène l'article à des choses un peu plus classiques. Pour le coup, c'est des tapis roulants, des choses comme ça.
Ça va le ramener sur des postes de travail opérateur, donc il n'y a pas de tapis roulant, ça va rester sur le robot. Et là, on a deux solutions. Sur certaines familles d'articles, ça va être préparé par un opérateur. Et sur d'autres familles d'articles, on pourra en parler, on a un produit qu'on appelle le Sky Picker. Donc là, c'est un bras robotisé avec de la vision qui peut prendre les articles directement. Et donc, on va combiner les deux.
Et juste par curiosité, parce que, bah, évidemment, nous, on a un spécimen qui a vu les coulisses, entre guillemets. C'est quoi la réaction générale des gens quand ils voient un entrepôt comme ça?
Alors, ce que j'ai souvent entendu, c'est que ça ressemble à un aquarium, c'est un peu hypnotisant. On est devant, on voit le balai des robots, effectivement, qui se croisent avec un moteur de trafic qui est en 3D, donc ça se croise dessus, dessous. Oh, il y en a deux dans la même cheminée, oh, etc. Et on peut facilement être un peu hypnotisé où on est comme ça, face au grillage, à regarder. Donc, voilà. Mais oui, il y a un côté un petit peu magique, un peu marrant. Hein.
Comme tu dis, il y a vraiment ce côté balai où, en fait, t'es en train de, tu assistes à une danse.
Ouais, c'est ça.
Et alors, justement, pour comprendre comment c'est possible, parce que comme tu disais, on a l'impression à chaque instant qu'ils vont se casser parce qu'ils se croisent trop vite, entre guillemets. Est-ce que c'est un intelligence, le fait de tout coordonner, ça se passe, c'est centralisé? Est-ce qu'il y a un gros ordi dans le data center qui coordonne tous les robots? Ou est-ce que c'est chaque robot qui fonctionne de manière indépendante? Ça marche comment?
Donc, les deux grosses briques technologiques avec Exotech, ça va effectivement être le robot, donc le robot au sens son hardware et son software embarqué qui aura quand même une partie d'autonomie, et ce qu'on appelle le fleet management, donc gestionnaire de flotte. Chez nous, il s'appelle Astar, et donc c'est lui qui va coordonner les robots. Donc, en gros, le scheduling du balai précis à la milliseconde près, il est choisi dans Astar en centrale. Okay. Et donc, la façon dont ça va marcher, c'est qu'un robot va donc apporter un bac à un opérateur. Une fois que l'opérateur aura dit « j'ai transféré l'article », le robot va dire « what's next ?» à Astar en lui disant « quelle est la prochaine mission ?» Et là, il va recevoir une mission, et donc cette mission, ça va être une trajectoire temporelle. C'est-à-dire qu'on va non seulement lui dire « va là », mais on va lui dire « à telle milliseconde, il faut que tu sois à tel endroit ». Et là, je te garantis que si tu suis non seulement cette géographie, mais si tu suis bien ta montre, là, tu es collision free, au sens tu vas t'insérer à l'intérieur du balai. Donc, on est vraiment sur ce qu'on appelle un vecteur d'état qui va décrire le robot avec cette dimension temps. Et il faut suivre cette trajectoire paramétrée en temps. Et du coup, il y a tout qui se passe bien.
C'est dingue. En vrai, il y a un petit côté stressant. Je me mets à la place du robot. Ça n'a pas de sens, mais je me mets à la place du robot. Tu sais que c'était, en gros, si t'es pas là au bon endroit à la bonne milliseconde, tu peux te manger un collègue, quoi.
Exactement. Globalement, il y a un peu deux grandes philosophies là quand on gère le trafic. La philosophie train, qui est plutôt safe, c'est on attend que le train ait dit « je suis sorti du carrefour » pour dire au suivant « vas-y ». Ça, c'est bien, mais ça ne fait pas de flux. Parce que du coup, à chaque fois, on rajoute des temps de latence, des temps de communication, des temps de recalcul. Et il y a l'autre solution qui dit « au premier train, tu passes au carrefour à 13h16, au deuxième, passe à 13h17, tu regardes que ta montre, tu regardes rien d'autre ». Et là, on obtient beaucoup plus de flux. Et par contre, effectivement, donc, sur des véhicules qui transportent des humains, je ne ferais pas ça. Sur des véhicules qui transportent des caisses, oui, c'est la meilleure solution pour avoir un flux de folie.
Et alors, on va rentrer dans le détail de savoir comment c'est possible. J'imagine qu'il y a peut-être des systèmes de correction d'erreurs, des choses comme ça. Mais déjà, d'entrée, est-ce que ça arrive des crashs? En production, chez des clients, est-ce que c'est possible qu'il y ait des crashs?
Donc, à nouveau, un robot, c'est génial parce que ça se confronte au monde réel. Donc, le jour où j'ai cassé une bouteille d'huile, oui, le robot, il glisse sur la bouteille d'huile, il fait zzz, et ça fait comme un flipper, et donc, il va se prendre un mur. Donc, on est dans le monde réel où il peut y avoir tout plein de choses qui arrivent. On a des entrepôts sur lesquels on est à 0 degré, on a des entrepôts où il y a des articles alimentaires, où il y a des fuites d'eau, etc., etc. Donc, oui, ça peut arriver quand le monde n'est pas conforme au modèle. Moi, je dirais ça en tant que roboticien. Quand le monde est conforme au modèle, les algorithmes savent le gérer et
ça
non, il n'y a pas
sur
de crash.
Ma machine.
Par contre, dans le monde réel, bah oui, il y a un pourcentage de cas. Donc nous, on travaille justement à ce que les algorithmes sachent détecter un petit peu la même chose que ce qu'on peut avoir sur les ABS, c'est-à-dire si ce que je vais appeler mon odométrie. Donc si mes tours de roue sont pas conformes à ma vision, je vais avoir un petit peu comme une sorte de mal de mer d'un humain en disant il y a une décorrélation entre mes différents capteurs, donc warning, donc je ralentis, par exemple. Donc on fait tout pour essayer de comprendre est-ce que le monde est cohérent ou pas et ralentir si le monde n'est pas cohérent. Mais oui, ça peut encore arriver quand il y a des grosses choses qui arrivent dans l'entrepôt, qu'il y a des crashs.
Et du coup, le logiciel qu'il y a à l'intérieur de chaque robot, est-ce que il est là, sur ce que tu disais, uniquement pour gérer en fait, les moments où potentiellement ça ne va pas? ou détecter la faille, ou du coup à quoi il sert en fait ce logiciel
de base. Il est là pour
intelligent, le petit robot.
Donc oui, il y a quand même de la vraie intelligence et des vrais algos à l'intérieur, au sens où il faut être capable de suivre la trajectoire qui a été donnée par en haut. Et pour ça, c'est pas si facile que ça. Je te donne une trajectoire, tu peux pas juste fermer les yeux et la suivre, parce qu'au bout d'un moment, tu vas te décaler, tu vas te prendre un mur. Donc en permanence, il va devoir appréhender la réalité qui est autour de lui pour en déduire où il se trouve. Donc parfois, j'ai la question en disant, mais il n'y a qu'à mettre un GPS. Un GPS, ça passe pas à l'intérieur, et un GPS, c'est précis à 1, 2, 3, 4 mètres. Là, on veut des entrepôts denses. Donc, l'allée, elle fait 80 cm pour un robot qui en fait 75. Donc, il y a 2,5 cm de chaque côté. Faut pas compter sur le GPS.
C'est pas gros, honnêtement.
Voilà. Donc, on est sur un robot qui doit comprendre son environnement et qui, à partir de cet environnement, doit d'abord répondre à la question où suis-je, et ensuite répondre à la question comment aller où je veux.
Très philosophique.
Voilà.
Mais du coup, il n'y a pas un temps nécessaire à. Parce qu'il y a un « où suis-je ?» Mais du coup, ça peut le ralentir sur le train qui était prévu par le fleet management.
Tout à fait. Donc lui, il a une trajectoire à suivre en temps. Et donc, on va utiliser des algos qu'on appelle de feed forward. Donc, il prévoit toujours à l'avance où il doit être. Il sait que dans son observation, il y a du retard. Et quand on compare, parce qu'on fait après globalement de l'asservissement, c'est-à-dire on va comparer l'endroit où on veut être et l'endroit où on est, mais il va le corriger en temps parce qu'il sait qu'il y a toujours un retard dans sa perception. Ouais.
Attendez, parce que vous êtes déjà dans les détails, mais moi, la question toute bête, comment il sait où il est?
Donc, on va faire de la fusion de données et on utilise donc ce qu'on appelle de l'odométrie. Donc, l'odométrie, c'est on compte au niveau des tours de roues. Donc, en fonction des roues, on voit comment ça se déplace. Et on va fusionner ça avec des capteurs de type LIDAR. Je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est ultra utilisé dans la voiture autonome. Donc, des LIDAR, ça va être un télémètre, donc quelque chose qui mesure une distance, qu'on projette sur un miroir qui est tournant. Et donc, comme on projette ça sur un miroir, ça va scanner tout autour. Quand on le voit, c'est un peu comme jouer au puzzle. Ça va dessiner une sorte de pièce de puzzle où là, on verrait ton ventre, le mien, etc. Et ensuite, l'algorithme, il va jouer au puzzle en disant, mais cette pièce-là, où est-ce qu'elle fit par rapport à ma connaissance du modèle? Et l'endroit où elle fit, c'est probablement l'endroit où je me trouve.
Donc en fait, c'est un peu comme sur l'iPhone, il fait un scan 3D de son environnement. Et après, comme il sait que dans sa carte, dans sa map qu'il a en mémoire, la porte, elle est à cet endroit-là, il se positionne par rapport à tout ça. En gros, c'est ça.
Voilà, c'est des algos qui ont commencé à exister, je dirais qu'il y a maintenant 15-20 ans, qu'on appelle SLAM, Simultaneous Localization and Mapping. Et voilà, et qu'on a progressivement adapté. Et on fait partie, on va dire, des premiers, mais alors on n'est sans doute pas les seuls, mais à l'avoir vraiment industrialisé, parce qu'il y a une différence entre le faire dans un labo et le faire sur, là on a 7000 robots qui tournent 24 heures sur 24, donc là ça demande un degré de robustesse qui doit être super fort.
Et est-ce que ça veut dire que, du coup, chaque robot, chacun de ces 7000 robots, est capable de faire une carte de son environnement et vous pouvez la visualiser?
Donc la carte, on va utiliser une carte qui va être commune, mais en temps réel, oui, il va faire cette espèce de jeu de puzzle qui va faire une sorte de carte locale et qui va en permanence matcher, et sur lequel on va aussi pouvoir voir s'il y a des deltas, donc s'il y a plusieurs robots à un moment qui disent « là, ça ne matche pas du tout avec notre connaissance globale », là, du coup, on va pouvoir remonter des problèmes et ensuite travailler pour la corriger.
On a passé ça rapidement, mais donc là, tu nous mentionnes quelques problèmes. C'était quoi? Enfin, qu'est-ce qui explique? C'est toujours une question que j'ai quand il y a un truc bien, une nouvelle sortie, une innovation, c'est qu'est-ce qui explique que jusqu'à présent, c'était pas possible? Est-ce que c'est juste que personne avait eu l'idée, ou est-ce qu'il y a eu des verrous techniques qui ont sauté récemment? Pourquoi c'est possible maintenant de faire ça? Ouais.
Je pense qu'il y a une combinaison de pas mal de choses. Il y avait effectivement le fait d'avoir déjà le besoin, donc le e-commerce qui augmente, la logistique qui structure, donc un besoin qui est fort. Et ensuite, je pense qu'effectivement, la robotique, ce qui est beau, c'est que c'est pas une techno, il n'y a pas juste un moteur d'intelligence artificielle. Ça va vraiment être une pile de technologies qui vont devoir s'agencer. Et pour y arriver, il faut que chacune des briques soit suffisamment forte. À la fin, la robustesse est le maillon le plus faible de l'ensemble du système. Donc c'est des capacités et des prix sur du software embarqué, sur des capteurs embarqués. Donc par exemple, ne serait-ce que des caméras embarquées, il y a encore quelques années, les modèles étaient chers, là maintenant ça commence à se démocratiser. Le processeur embarqué dans les robots, il fait la taille d'une carte bleue et il coûte de l'ordre de 50 euros. Pareil, quand j'ai commencé ma carrière, c'était plutôt gros comme ça et ça coûtait 500 euros. Donc c'est des combinaisons de hardware qui coûtent moins cher, c'est des combinaisons de software qui sont possibles, c'est toutes ces choses-là, on va dire, qui maintenant sont agençables par une entreprise de notre taille.
Mais depuis pas tant de temps que ça, du coup, visiblement.
Ouais.
Et un exemple, notamment, c'est que parmi les géants de l'e-commerce, donc on mentionnait Amazon, mais il y en a peut-être d'autres, ils ne sont pas encore à ce niveau, en fait.
Oui, bah, je pense que dans les choses qui nous différencient, il y a ce côté, bah, il y a des, vraiment des ruptures technologiques. Je pense le fleet management, où on a vraiment apporté des choses. La robustesse de localisation des robots, on a apporté quelque chose. Et l'autre élément, ça va être, et ça c'est des choses moi, que j'ai appris en travaillant dans le médical avant, ce qu'on appelle l'ingénierie système. Justement, c'est la science de combiner les sous-systèmes pour n'en faire qu'un à la fin. Donc vraiment, et là il y a besoin de gros, c'est l'architecture, mais l'architecture qui va dépasser l'architecture software, donc l'architecture et du software et du hardware ensemble, pour faire un système qui soit robuste et qui marche.
Et par exemple, le côté 3D, donc le fait que là, tes robots, ils peuvent à la fois se déplacer au sol, mais monter tel Spider-Man, c'est une innovation ou ça fait longtemps qu'on sait faire ça?
Non, ça pour le coup, c'est une innovation. Donc là, c'est vraiment réussir à faire la capacité mécanique. Des robots qui grimpent, on va dire, très compliqué. En robotique, c'est facile de le faire compliqué. Ce qui est difficile, c'est de réussir à trouver un moyen simple, un moyen pas cher, un moyen robuste pour être capable de faire la fonction. Et ça, je pense, ça a été la grande innovation. Donc la façon, même si je refais un peu l'histoire dont on s'est lancé, c'est qu'on a vu Amazon, donc qui a racheté une boîte qui s'appelle Kiva, qui vient du MIT à Boston, qui fait des robots 2D, donc des sortes de tortues, où ils se sont dit, plutôt qu'avoir des gens qui vont à l'étagère, on va faire une petite tortue qui va passer sous l'étagère, la soulever et vous la ramener. Et l'idée est formidable, en utilisant du coup des technologies robotiques, là qui commençaient à naître au MIT, et qui étaient plutôt des technologies vraiment avancées. On a vu ça, on s'est dit, d'un point de vue techno, c'est trop bien. Deuxième chose, Amazon les rachète, ça montre qu'il y a un intérêt énorme, que ça apporte vraiment quelque chose pour le business.
Ah oui, Alors, je les avais déjà vus.
Et quand ils les ont rachetés, ils ont fermé le département commercial. Donc ils ont dit, c'est pas une techno qu'on prend pour faire du business, c'est un techno qu'on prend pour faire de la différenciation. Et là, on a dit, c'est quand même vraiment fou.
Il faut qu'ils allaient le garder en interne.
Ils allaient le garder. Donc là, on s'est dit, il faut qu'on arrive à se lancer là-dedans. On a un peu des compétences en robotique, il faut qu'on essaye. Et là, on s'est vraiment posé la question en disant, en tant qu'ingénieur, on veut pas copier, on veut faire mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux par rapport aux robots qu'on voit? Bah, ça se voit assez facilement. On voit qu'entre le haut de l'étagère à 2 mètres et le plafond, il y a bien 10 mètres de vide. On s'est dit, on aimerait remplir ces 10 mètres de vide. Alors Amazon, parfois, ils vont faire de la mezzanine béton, mais ça coûte super cher. Pour le coup, on revient sur des trucs structurants et pas flexibles. Donc on a dit, il faut qu'on arrive à faire des robots qui grimpent. Et donc là, c'est même plus le génie de mon cofondateur, Romain, qui est le mécano à la base, de vraiment trouver un système qui soit robuste, qui soit pas trop cher. Et voilà, et quand on l'a trouvé, on s'est dit, là, je pense qu'on a un concept. On essaye, on y va.
Franchement, c'est la classe. Honnêtement, comme tu dis, des images valent mille mots.
Ouais, ouais. Ouais.
Et moi, j'ai rien fait. Hein. Mais je trouve ça un peu classe quand même qu'on ait une boîte française qui est arrivée à ce résultat-là, alors que chez Amazon, ils sont toujours là en 2D. Là.
Je pense que maintenant, ils le savent et je pense qu'ils sont sans doute en train de réfléchir à comment passer à l'étape suivante. Mais pour l'instant, effectivement... Ça pourrait être des clients un jour. Après, ils ont un côté très ingénieur à Amazon où ils aiment bien internaliser la compétence. Donc, c'est des clients dont je me méfie. Ils nous avaient déjà contactés pour faire un meeting en mode « Ah, peut-être qu'on aimerait équiper un entrepôt. » Et dans la réunion, il y avait Mr. Motion Control, Mr. Vision, Mr. Machin. Ouais.
Non, je crois que là... des datasheets précises de tout ce que vous faites, s'il vous plaît.
Donc, pour l'instant, on y va calmement, on va dire.
Ok.
Et hyper intéressant. Ce qui est fou, c'est que genre, vous êtes au Japon. Enfin, c'est pas qu'en France, quoi, les installations de robots.
Oui. Et ça, c'est, on a de la chance, on est sur un marché sur lequel il y a des besoins dans le monde entier et des besoins qui se ressemblent. Parce que parfois, on est obligé de complètement changer la technologie, ce qui va être compliqué. Là, avec une même technologie cœur, elle peut marcher un peu sur tous les continents. À la base, dans l'histoire, on avait dit d'abord, on attaque en Europe autour de nous, puis ensuite, on ira aux US, puis après, on verra pour l'Asie. Et on était, si je dis pas de bêtises, en 2019, à un salon qui est à Stuttgart en Allemagne. Et là, justement, les gens d'Uniqlo étaient passés nous voir en disant, ça, c'est la technologie qu'il nous faut. Est-ce que vous êtes au Japon? Et non, pas encore. Est-ce que vous pouvez y aller? On dit, on va y réfléchir très fort. On parle de combien de robots? Oh, 450 pour commencer. On va y réfléchir.
D'accord, on va vraiment y réfléchir. Bien.
Donc, au début, on l'a quand même dit assez honnêtement, on n'est pas encore prêt. Donc, on a fait un premier entrepôt avec eux en Europe pour approvisionner donc les magasins Uniqlo d'Europe, donc qui est basé en Hollande, qui a été un succès. Et du coup, ensuite, on a eu le temps de se structurer, ils nous ont fait confiance et on est parti au Japon.
Et donc ça, c'était il y a quelques années à peine. Est-ce que, question bête, mais est-ce que toi, tu as programmé des robots? Est-ce que tu as participé vraiment au dev? Est-ce que tu le fais toujours maintenant?
Donc oui, bien sûr, quand on lance une startup, il faut bien sûr mettre les mains dedans. Et donc au départ, il y avait tout un côté de ne pas se tromper sur le besoin de marché, donc beaucoup de discussions, de comprendre le client. Et ensuite, une fois qu'on l'a compris, une fois qu'on a signé les premiers contrats, là, il faut s'y mettre. Donc en tant que CTO, j'ai eu à structurer l'équipe, mais effectivement, j'ai passé beaucoup de temps à implémenter du code à l'intérieur du robot, du code dans le fameux ASTAR, du code ce qu'on appelle business, c'est-à-dire les règles métiers logistiques. Donc j'ai touché à pas mal d'endroits. Donc au début, le premier entrepôt qu'on a livré donc pour Cdiscount, je pense que dans l'équipe technique, on devait être 8, quelque chose comme ça. Donc bien évidemment, énormément les mains dans le cambouis. Et voilà, et maintenant
c'est
on est...
en prod.
Et il est toujours en prod.
Ah, c'est pas mal. Franchement, c'est stylé.
Ouais, non, il est toujours
ça
en prod.
Ça fait combien de temps qu'il tourne?
Et ben donc, mi-2017, à l'été 2017, on l'a déployé.
Ah, quand même.
Ouais, donc, on commence à avoir maintenant un vrai retour d'expérience. Les robots qui sont là-bas sont compatibles avec les autres systèmes. Les nouveaux robots qu'on fait, on peut les amener sur système. Donc, on a vraiment ce côté, toujours la promesse client d'avoir quelque chose de flexible, qu'on puisse faire grandir, elle est remplie.
Et alors, bah justement, si on regarde dans le détail, on a parlé du fait que tous ces petits robots doivent parler avec une sorte d'ordinateur mère, entre guillemets. Ouais. Comment se fait cette communication ?
Donc on va être basé sur des techno Wi-Fi, mais qu'on a industrialisé, au sens c'est pas un Wi-Fi où il peut y avoir tout et n'importe quoi. Dedans, on a utilisé des protocoles sur lesquels on est capable de garantir les temps de réponse, puisque les temps de réponse sont importants entre le robot. On l'a vu dans la gestion de trafic. Si un robot, par exemple, est en retard sur sa trajectoire, il faut qu'il puisse prévenir en haut pour qu'on puisse prévenir les robots impactés. Donc on veut des latences. Donc les sous-jacents sont assez classiques. Par contre, l'utilisation qu'on en a fait est extrêmement sous contrôle. Donc en termes de programmation, je ne sais pas si tu as déjà fait une émission sur le côté temps réel. Quand on programme en temps réel, en gros, on doit tout maîtriser. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'éléments perturbateurs ou statistiques. Donc là, ça va être un petit peu le même genre de philosophie qu'on va appliquer.
Donc ça veut dire que vous avez modifié le protocole Wi-Fi, en gros.
On a utilisé le protocole Wi-Fi et nous, les couches du dessus, les couches au niveau UDP, au niveau TCP qui sont au-dessus, on les a utilisées de sorte à enlever tout ce qui n'était pas déterministe pour pouvoir garantir la communication.
Et du coup, c'est combien de millisecondes qu'il faut au max, qui est autorisé ? Pour éviter que ça foute le bordel dans l'entrepôt.
Alors la première chose, quand ils vont se parler, c'est qu'il faut qu'ils sachent se parler sur une même horloge. Donc il faut qu'on synchronise l'horloge à moins d'une milliseconde près. Parce que quand on dit « vas-y », je peux te le dire à l'avance, par contre le « vas-y », il faut qu'il soit au bon moment. Donc le plus important n'est pas tant la rapidité à laquelle je parle, mais quand on va se parler, de pouvoir parler avec un temps qui est commun. Donc là, on est sous la milliseconde. Et après, l'autre, ça va être la capacité de réaction uniquement en cas dégradé, où là, il faut aller vite. Donc à nouveau, c'est la flaque d'huile. Je passe sur une flaque d'huile, dites aux autres robots qu'il serait peut-être pas mal de freiner. Et là, on est plutôt de l'ordre de la dizaine de millisecondes.
Ça va quand même assez vite. Hein. On s'en rend pas compte, mais
oui.
Ça va quand même très, très vite.
Parmi les questions que j'avais, est-ce que vous faites des crash tests ? Ça existe, ça ?
Alors oui, ça peut arriver justement parce que comme on est dans le monde réel, il peut y avoir des collisions. Donc un robot, il va avoir un pare-choc. Et quand on design un pare-choc, eh ben, il faut qu'il absorbe de l'énergie. Et donc oui, on fait des crash tests pour voir combien notre pare-choc absorbe de l'énergie.
Est-ce que vous avez crash tests en slow-mo ? On peut pas
et oui, je c'est pense qu'on doit avoir ça, mais je pense qu'on le garde en interne.
T'as dommage, c'est tellement satisfaisant.
Mais c'est ça qui est chouette. Dans les équipes R&D, on va avoir des ingénieurs avec des compétences super variées. Donc ça va être des ingénieurs mécaniques qui vont faire du dessin de structure. On a des ingénieurs tests qui vont les tester. Des ingénieurs software sur des variétés super grandes, donc allant du software embarqué, on est du C dans un microcontrôleur, des gens qui vont faire du C++ dans de l'algo toujours en embarqué, contraintes de ressources, contraintes de temps réel, des gens qui vont faire du C++ sur du vrai algo qui doit tourner vite, donc là ça va être tout le fleet management. On est sur des combinatoires qui sont immenses, donc en termes de combinatoires on appelle ça des problèmes NP complets, quand en fonction du nombre d'éléments la complexité est exponentielle. Donc là, vraiment, de l'optimisation des maths de l'algo. Et après, au-dessus, on aura du Java pour tout ce qui est le software business, le back des interfaces soit les API, soit les interfaces front, et ensuite du front en web.
Bon, bel stack.
Franchement, bel stack.
Et c'est ça, dans un entrepôt logistique déployé par Exotech, peut-être quelque chose que je dois dire, on ne vend pas des robots. On vend toujours une solution complète. Donc, on ne va pas nous acheter 3 robots, on va acheter un système de préparation de commandes.
D'accord.
Donc, il y aura toute la stack software qui sera déployée.
Okay.
Et donc, quand on déploie un entrepôt, c'est environ 50 types de software différents, dont certains, genre le software qui contrôle le robot, il est fois le nombre de robots. Mais il y a 50 types de software différents qui vont faire la stack générale pour faire tourner l'installation.
Et ben, tu parlais du prix. Si tu fais le calcul et que on fait la division, ça, c'est combien du coup un robot en moyenne ?
Donc,
si je veux m'acheter un robot là pour ranger les... Parce qu'on a, si tu veux, on a un entrepôt là.
Où il y a un peu de bazar.
Qui est rangé, mais parfois il ne l'est pas. Je veux un robot.
Ouais. Donc, tu n'achètes pas un robot, tu achètes une installation. Donc, si je fais sur une installation, une petite installation, ça va être de l'ordre du million d'euros.
D'accord.
Et une grosse installation, ça va être plusieurs dizaines de millions d'euros.
Ben, je sors mon portefeuille. Non, ok, c'est les ordres de grandeur.
Et donc, une petite installation, ce serait quoi ? Ce serait une vingtaine de robots, ce serait plusieurs milliers de bacs. Et quelques postes de travail opérateurs qui vont permettre de faire tourner. Donc ça va être par exemple un drive ou des choses comme ça qui sont plutôt des petites installations, ça va être cet ordre de grandeur-là. À l'inverse, quand on fait des grands entrepôts pour typiquement ce qu'on appelle le retail, réapprovisionnement magasin, c'est beaucoup de volume, donc Uniqlo c'est un cas, là ça va être des choses beaucoup plus grosses.
Mais donc, c'était dit 20 millions, c'était ça?
Attends. Non, 1 million.
1 million, ça fait moins de 50 000 le robot, en fait.
Oui, c'est moins de 50 000 le robot, parce qu'il y a...
Je sais pas, je trouve...
Avec
pas...
tout le système qui est autour.
Ouais, mais c'est pas si... Tu sais, dans l'industrie ou des trucs de robotique, ça va vite, quoi. Ouais, je m'attendais plus.
Et puis, au final, c'est vrai que c'est pas la même chose que sur du B2C. Sur du B2C, on regarde par rapport à juste les coûts. Dans du B2B, ça va être ce que ça apporte. Donc, ce que ça va apporter, c'est plus de business. Si j'ai cette solution-là, je peux être capable de mettre plus facile, d'articles. Donc je vais convaincre plus de clients parce que j'aurai un meilleur référentiel, je vais les livrer plus vite, etc. Donc souvent ça se met en face de revenus qui sont largement supérieurs à ces coûts investis.
En fait, ça doit pas être si difficile. Il suffit de faire combien ça vous coûte, voici le prix de la solution, et ils voient très vite s'ils vont gagner des sous.
Dans l'industrie,
ils amortissent ça sur 2-3 ans.
Ouais, dans l'industrie, les décisions d'investissement, elles sont faites sur du ROI, du payback. Donc oui, on va regarder deux choses. Est-ce que ça nous fait économiser? Est-ce que ça nous fait gagner? Donc plus de chiffre d'affaires, moins de coûts, puis après on met en face l'investissement.
Le PowerPoint n'est pas si compliqué.
Non,
c'est ça
non,
que
non,
je voulais
non,
dire.
Non.
Un peu de slide.
Tu peux te lancer.
De la tech. Non mais c'est ça que je sais justement pour ça que vous êtes là. Il n'y a pas besoin de beaucoup de slides, mais il y a une belle tech. J'ai mon trou de mémoire, mais je sais
moi,
pas.
Moi, si tu veux,
Non,
je t'en prie.
Salut. Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée.
Moi, je voulais qu'on parce qu'on a parlé un peu de la théorie technique du hardware, mais maintenant, d'un point de vue du logiciel, il y a un aspect qui m'a toujours intrigué, mais ça me rappelle mes vieux cours d'université, je crois. C'est tout ce qui est calcul de trajectoire, ouais. Théorie des graphes, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche dans un système de ce type-là pour, à partir d'un point A, décider quelle est la route pour aller à un point B? Et est-ce que, d'une certaine manière, c'est pas un peu ressemblant à GPS?
Alors, c'est intéressant. Donc déjà, la meilleure façon pour tous ceux qui sont intéressés par ce problème-là, c'est de venir à l'ExoLégende. À l'ExoLégende, nos robots, ils se déplacent dans un labyrinthe et s'ils savent pas trouver un chemin, ils restent bloqués. Donc on voit les gens qui arrivent à notre hackathon et souvent au début, ils sont exactement... Donc ils disent, j'essaye au nord jusqu'à ce qu'il y ait un mur. Quand il y a un mur, je tourne à droite. S'il y a toujours un mur, je retourne à droite. Et souvent, on finit par faire des robots qui tournent en rond. Donc il faut aller vers des vrais algos où on fait une vraie modélisation de la carte, des endroits où ça passe, des endroits où ça passe pas. Et on va chercher, donc on le modélise, comme tu l'as dit, sous la forme d'un graphe. Donc un graphe, c'est des nœuds, des endroits où je peux être, et des arêtes, c'est les endroits où je peux aller à partir de cette position-là. Et de là, on va pouvoir itérer. Et donc là, il y a plusieurs façons de le faire. Le premier mathématicien qui a proposé une solution, il s'appelle Dijkstra. Dijkstra, donc c'est facile.
Les flashbacks d'université là.
On fait un rond, donc on part de l'endroit où je suis, je vais explorer ceux qui sont autour, puis ceux qui sont autour de ceux qui sont autour. Et donc en fait, on va avoir une sorte de rond où je vais partir de l'endroit où je suis, je regarde tous les chemins possibles jusqu'à ce que mon rond, ting, il touche ma destination. Et là, je dis, ah, j'ai trouvé un chemin qui va à ma destination. C'est bien, mais c'est long. C'est-à-dire que si je veux trouver le chemin qui m'emmène, disons, aller à Marseille, je vais aussi trouver le chemin qui m'emmène à Berlin, parce que les deux sont à 1000 km, donc j'aurais trouvé tous les chemins amenant dans toutes les villes allant de Paris à toutes les villes à moins de 1000 km.
T'as beaucoup de calculs pour rien, quoi.
Exactement.
Si je voulais aller à Marseille, oui, effectivement.
Donc ensuite, il y a des algos qui ont été améliorés, dont un qui s'appelle Astar, d'où le nom de notre logiciel, sur lequel donc, on rajoute des heuristiques. On va partir de... Donc il y en a qui vont permettre d'aller plus vite sans trouver forcément la meilleure solution mathématiquement. Et il y en a qui vont garantir, qui vont avoir des garanties mathématiques tout en allant beaucoup plus vite. Donc là, ça va être, en gros, on va dire, on va progresser non plus en forme de rond, mais plutôt en forme d'ellipse, en disant, je sais que le chemin restant, il fait au moins la distance à vol d'oiseau. Donc à un moment, si j'ai un chemin qui se rapproche, eh ben, il vaut mieux l'explorer que le chemin qui m'éloigne. Et du coup, là, au lieu de progresser en rond, on va progresser en forme d'ellipse dans la direction qu'on vise. Donc par exemple, ça, c'est une des astuces qui permet d'aller plus vite.
Et est-ce que tu penses que typiquement des Waze ou des trucs comme ça, ils nous donnent toujours le chemin le plus court ou alors ils optimisent plutôt la facilité de calcul?
Donc il y a deux choses. Il y en a un, c'est le chemin le plus court en kilomètres. Ça, tout le monde sait le trouver, c'est pas très dur. Maintenant, il y a des algos qui permettent de garantir, oui, c'est sûr. Après, la deuxième difficulté, c'est qu'on va avoir parfois des boucles où en fonction de l'heure à laquelle je passe, j'aurai pas le même trafic. Et donc, j'aurai pas le même temps de parcours. Et donc, quand on commence à calculer en temps de parcours, alors si c'est en temps de parcours dans un trafic fluide, c'est facile puisqu'on a juste à convertir les kilomètres en temps avec la vitesse. Par contre, quand on est dans un trafic super dense, comme c'est le cas nous avec nos robots, là, les algos deviennent beaucoup plus rigolos, beaucoup plus intéressants et beaucoup plus difficiles.
Et là, par contre,
on n'est pas sur du parfait. Là,
ouais.
Là, chaque entreprise va avoir sa secret sauce pour réussir à trouver le meilleur chemin temporel, mais c'est trop compliqué. Voilà.
Ah, ça n'a pas été théorisé, quoi.
Si, ça a été théorisé, mais dans des choses qu'on n'arrive pas à résoudre en temps réel. Si vous voulez qu'on aille un peu plus dans la théorie, elle est rigolote. Donc, on fait un graphe qui est spatial, d'accord. Et là, on s'est trouvé le plus court chemin. Si je veux rajouter le temporel, en fait, je vais rajouter des graphes je vais redupliquer ces graphes toutes les, par exemple, 2 millisecondes. Et je vais faire un parcours de graphes qui, au lieu d'être que spatial, va aussi être temporel, dans lequel je vais faire les mêmes algorithmes de calcul du plus court chemin, mais en prenant en compte cette dimension. Mais ça fait des graphes qui, du coup, sont très grands et qu'on n'arrive pas à résoudre en temps réel.
En temps réel, sauf chez Exotech.
on va le parcourir, mais on ne va pas avoir une garantie d'avoir trouvé le meilleur du meilleur, mais on va en trouver un très bon en temps réel.
Ok, c'est hyper, intéressant, vraiment.
Et ça se rapproche des théories, quand on utilise du machine learning, etc. Pareil, on n'a pas un optimum global du monde entier, on a une très bonne solution en temps réel.
Probable que, effectivement, je continue mon parallèle, si moi je me mets une destination sur Waze et qu'il y a du trafic et des choses comme ça, c'est probable que ce soit trop. Que ça prenne trop de temps d'avoir la meilleure solution et qu'il ne la fasse pas.
Voilà, et il en fait une bonne qui sort.
Et voilà. Et donc, ça a bien un rapport. Parce que je m'étais toujours demandé
Il y a un lien. Alors, par contre, là, on a résolu le problème qui est un agent pathfinding.
Ouais.
Mais ça, c'est le problème facile. Ensuite, le problème le plus difficile, c'est qu'on n'a pas un agent qu'on veut amener à un endroit, c'est qu'on a N agents qu'on veut amener à N endroits, chacun ayant sa destination. Donc, ce problème s'appelle du multi-agent pathfinding. Et donc là, pour le résoudre, c'est beaucoup plus compliqué parce que parfois, on va accepter sur un agent de faire un détour pour ne pas encombrer, par exemple. Ah oui. Et ça, par exemple, donc Waze ne le fait pas, ça va être local. Et ça, ce problème-là, il est encore infiniment plus compliqué, infiniment plus drôle. Et donc, c'est ça qu'on va faire, c'est essayer de trouver des solutions au niveau de la flotte.
Mais est-ce que c'est pas ce qu'ils essaient de faire quand ils te font prendre une route un peu moins bien, juste pour que tu libères l'autoroute, tu sais?
Je pense qu'ils le font toujours du point de vue de toi, c'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a un bouchon et donc ils te font contourner, mais ils n'ont pas anticipé. On le voit parce que régulièrement, du coup, il y a la route qui s'engorge.
Ouais. Donc je trouve ça intéressant, c'est que on est dans une gamme de problèmes qui, en les lisant, paraissent. Tu te dis, c'est simple.
Enfin, ouais,
tu calcules des trajectoires, des trucs comme ça. Maintenant, on fait de l'IA, si tu veux. Donc, ça a l'air simple. Mais en fait, c'est une catégorie de problèmes. C'est pas trivial du tout.
Non, c'est pas trivial du tout. Moi, j'en dis, mais ça, il doit y avoir des papiers de recherche. Et alors, il y a des choses. À chaque fois, il y a plein de facettes. Mais non, la solution au problème global, c'est des bonnes idées regroupées ensemble pour faire un. Et il y a ce côté temps réel. Ça, c'est aussi la chose importante. Si on peut calculer pendant très longtemps, on arrive à trouver de très bonnes solutions. Là, des robots, chaque seconde que je passe à calculer, c'est des secondes où le robot bouge pas.
Et est-ce que si les puces deviennent encore plus puissantes, ce calcul qu'on n'arrive pas à faire en temps réel actuellement avec les robots et qu'il faut optimiser, on pourra le faire en temps réel ou c'est pas lié à la puissance de calcul?
Donc, si, c'est lié à la puissance de calcul. Actuellement, on le fait en temps réel, mais à un moment, on a trouvé une bonne solution et on doit s'arrêter parce que c'est l'heure d'envoyer la mission et on ne va pas plus loin. Plus on a du hardware qui va vite, plus on est capable de continuer à chercher, continuer à optimiser, tester plus de combinatoires. Ouais.
Et surtout pour dire aux gens, là, on a donné l'exemple des recherches de GPS, mais c'est la même chose dans les jeux vidéo, par exemple. Ouais. Quand vous jouez à Age of Empires, là, que vous cliquez à un endroit, et ben, il y a une recherche du chemin le plus court.
C'est en temps réel, en plus, dans un jeu vidéo, en fait.
Tout à fait. Donc, il y a des similitudes assez fortes avec le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, je sais pas s'il y a ce côté d'optimiser le mouvement de plusieurs agents en même temps, mais c'est pas impossible qu'il y ait des cas où ça, des cas où ça se voit aussi. Hein.
Ça a du sens si t'as des routes. Et si t'as un nombre restreint de routes,
effectivement, et à mon avis, répartir pour pas que ça passe.
Bonne question.
Quel jeu pourrait mettre ça en place?
Hyper, hyper stylé. Et j'ai oublié ce que j'ai dit. Si, je sais. Là du coup, on a fait un peu des parallèles avec d'autres.
Peut-être juste un mini point, pardon, je te repasse. Mais dans les choses qui sont intéressantes, je vois, moi, depuis le début de ma carrière, j'ai fait beaucoup d'algo de ce type-là. Parfois, souvent, il y a la question de et les puces et la puissance de calcul. Moi, depuis que j'ai commencé à bosser, je ne sais pas, peut-être que maintenant, ça fait 4 fois mieux que ce que ça faisait au début. Par contre, les algos, quand on trouve une bonne idée, on peut facilement faire 100 fois mieux que ce qu'on faisait avant. Donc, dans les équipes R&D, j'ai beaucoup plus de mathématiciens que de gens qui optimisent la gestion du cache ou les processeurs qu'on va utiliser. Et ça, c'est royal. C'est-à-dire qu'avec. Les softeux, qui travaillent à Exotech, ils ont comme joujou un truc qui vaut 10 millions d'euros de hardware sur lequel on met un algo, et s'ils ont une bonne idée, on peut faire produire 5% peut-être plus avec le même hardware.
Donc t'as un impact super fort.
Du point de vue du client, c'est comme si ces 10 millions lui rapportaient 5% de plus que ce qu'il avait acheté. Donc il y a vraiment des bonnes idées à trouver, des bonnes idées d'algorithmes où depuis le début d'Exotech, la capacité de calcul n'a pas radicalement changé, et pour autant on a vraiment multiplié par plusieurs ordres de grandeur la capacité du système.
Et donc c'est toujours en cours et toujours en cours d'amélioration.
Et c'est toujours en cours, et là en ce moment il y en a encore.
Tant qu'on est dans les. On digresse un tout petit peu, j'espère que ça ne te dérange pas, mais c'est pas tous les jours qu'on parle avec des gens qui gèrent des systèmes de cette taille-là.
De cette complexité-là.
Complexité, ouais. Et donc, alors, moi, naïvement, de l'extérieur, je me dis, OK, ces gens, ils ont trouvé des moyens de faire se déplacer des petits véhicules sur des routes qu'on connaît à l'avance à très très haute vitesse, à quel point ça ne peut pas se déplacer sur dans le vrai monde, sur les voitures. Tu le disais, il y a le problème du fait que tu transportes des humains, mais, ouais. mais à quel point il n'y a pas quand même des choses à ce bac à sable ouais. en environnement contrôlé. Est-ce qu'il y a des choses qui ne pourraient pas se transposer sur des véhicules, des voitures, des trains, des choses comme ça ?
On a énormément de choses qui sont en commun avec les startups qui sont lancées sur les véhicules autonomes. Depuis les capteurs, le lidar, les algorithmes, la localisation, les détections d'anomalies par rapport au monde réel, c'est des choses qui ressemblent. Et donc on voit, il y a énormément d'entreprises qui se sont lancées, dont des entreprises aussi même en France, là, sur des navettes, des entreprises aux États-Unis, des entreprises, et je crois que tu en parlais, qui ont aussi d'ailleurs jeté l'éponge. Je crois que tu en parlais dans Apple...
Comment ça s'appelle ?
J'ai oublié.
Apple avait lancé
ce que je raconte au début de l'émission.
Apple avait lancé une initiative et s'est arrêté. Donc, ouais. Je pense qu'on est effectivement dans un contexte où c'est un petit peu plus facile. Alors, à la fois, c'est un peu plus facile. À la fois, un véhicule, il roule quelques heures par jour. Nous, ça roule 24 heures sur 24. Donc, il y a quand même besoin, en termes de fiabilité, d'être sur une vraie horloge, mais dans un monde où il y a de l'incertitude, mais moins que dans le monde réel. Et donc, ça nous permet effectivement de robustifier, d'industrialiser des choses qui seront le futur, j'en suis certain, dans les rues un jour.
Peut-être que bientôt il n'y aura plus de feux rouges et au croisement on va juste se croiser à 50 km/h.
Ce sera super flippant.
Exactement.
Mais tout sera calculé. Tu as dit que les robots ils roulaient 24 heures sur 24. Comment vous faites pour les batteries?
Ouais, donc les batteries, donc une batterie globalement elle va durer 55 minutes et ensuite il va se charger 5 minutes. Donc la flotte va tourner 24 heures sur 24, mais on aura un tour de rôle qui va être sur ce qu'on appelle le booster, donc le chargeur. Et donc c'est la responsabilité à nouveau du chef, Astar, d'organiser la rotation. Donc c'est une sorte de ressource partagée, on pourrait voir ça comme de l'informatique.
Il y a un stand pour de recharge, quoi.
Voilà, à côté de chaque interface du système à l'extérieur, il y a un point de recharge et ils vont y être assignés à tour de rôle. Donc si j'ai besoin d'un point de vue flux de 10 robots, je vais en mettre 11 et je sais qu'il y en a un en permanence qui sera à tour de rôle en train de se charger. Si j'ai besoin de 100, j'en mettrai 110. C'est facile.
D'accord, ok.
Oh non, j'ai vu, je te la transmets. Bah si, c'est trop tard, j'ai commencé, mais je te transmets une idée du chat qui sont en moyenne pas ouf. Hein.
On critique pas l'audience. Hein.
Ça dépend.
Ça dépend. Parfois, on peut se permettre. C'est de pour résoudre votre problème de pathfinding, ce serait de brute forcer le problème et de calculer maintenant tout de suite toutes les combinaisons.
C'est possible, mais après, il faudrait pouvoir les enregistrer.
Mais il y a toujours le problème de l'huile renversée au sol, quoi.
Oui, non, et puis même, tout simplement, il y en a trop. Hein.
Là, c'est juste ça. C'est...
Oui, à l'échelle d'un
tu
robot...
Tu pourrais casser tous les mots de passe du
monde.
Tu pourrais, oui. trop intéressant, franchement.
Moi, ce qui m'a tué,
quand toute la soirée, mais...
je suis allé voir là-bas, c'est qu'il y a... Alors, c'est pas que des environnements de test, mais il y a plein de mini-entrepôts à votre siège, là, dans le Nord. Alors, je pense qu'il y en a, c'est le développement, d'autres, c'est des environnements de test, l'autre, c'est une production ou la production de pièces et tout. Mais il y a vraiment plein de mini-stands, enfin, d'entrepôts exotestes. Mais genre, moi, je pensais qu'il y en aurait un parce que ça coûte cher quand même. Non, il y en a plein. Il y en a même un.
Pour faire joujou dans différents cadres, quoi.
Il y en a un où j'ai vu des
pas
robots.
Que pour faire un joujou.
C'est ma manière de dire faire de la R&D.
Non, mais justement. Donc, on s'en sert pour faire de la R&D, pour à la fois sur du concept, sur innover, j'ai une idée folle, est-ce que j'essaye? Sur de la validation de R&D, avant de l'envoyer chez le client, je vais être sûr à 100% que ça marche, okay. Sur de la QA. Mais on s'en sert aussi parce que comme c'est le meilleur système de stockage du monde, pour notre prod à nous, on stocke nos composants de prod dans un système SkyPod. Bah. Of course.
Mais bien sûr.
Donc, c'est pas que pour faire joujou au sens R&D, parce que je suis bien d'accord qu'R&D, ça peut parfois, ça ressemble à du jeu, mais bon. C'est aussi utilisé pour notre prod, pour notre supply. Ouais.
Bon, on dit souvent qu'il faut manger ses propres plats.
Ouais, tout à fait.
Non, pardon.
Oui, c'est ça.
Et j'ai vu aussi, il y a un moment où il y a des robots qui font que aller, en fait, qui bougent en permanence juste pour savoir. Le vieillissement du robot, en fait.
Ça, c'est intéressant. Les clients les plus alertes, ils nous disent vous garantissez que vos produits durent moins de 10 ans, sauf que vous existez depuis moins de 10 ans. Comment est-ce que vous pouvez garantir ça? Et donc là, la réponse, c'est du test accéléré. Donc, un robot, par exemple, je crois que c'est un 12e de son temps, il va grimper. Le reste, il va se déplacer, prendre des bacs, etc. Donc, si je le fais cycler en permanence sur grimper, il va s'user 12 fois plus vite que dans la réalité. Et donc, au bout d'un an, je sais ce qui va m'arriver sur 12 ans. Donc, ça, c'est super important.
C'est comme dans le logiciel. Souvent, quand tu fais des tests de simulation, tu veux accélérer l'univers. Ouais. Ouais. Et effectivement, ça paraît pas possible en vrai, mais en fait, il suffit de...
Si, il faut.
Et sauf que là, tu vois vraiment, j'ai vu de mes propres yeux, un robot faire comme ça. Mais genre vraiment, il était teubé quoi. Il est accroché par un fil parce que comme ça, pas de problème de batterie. Et pfft, comme ça, en permanence, il fait waouh, il vit sa meilleure vie quoi.
Lui, c'est le robot crash test.
Ouais, bah, c'est ça qui est chouette avec The Tech, c'est ce côté très innovation, très tech. Et en même temps, il faut une qualité de folie parce que à la fin, un client, quand il nous confie sa logistique, il nous confie ses ventes quoi. S'il n'y a pas de logistique, il ne peut plus vendre. Donc ça doit être parfait. Okay. Et ça doit être parfait sur tous les aspects. Donc on va se battre pour le faire au mieux sur le software, sur le hardware, sur nos opérations. Et voilà, et on a encore plein de choses à construire sur les deux aspects d'ailleurs, et sur la partie robustesse et sur la partie innovation. Sur la partie innovation, ça peut faire partie. Parfois, il y a des gens qui viennent me voir en disant mais votre tech, elle existe. Pourquoi il y a encore tant de gens que vous embauchez en R&D?
C'est vrai ça. et pourquoi il y a tant de gens qui n'ont pas cette solution aussi?
Qui n'ont dans du point de vue des clients?
Ouais, qui font toujours à la main.
C'est vraiment en train de changer. Là, on voit tous ceux qui se développent, tous ceux qui grandissent et qui donc investissent. Là, maintenant, il y a vraiment un changement massif vers la robotisation. Mais donc, pourquoi il y a encore besoin de tech? Il y a un peu deux dimensions. Il y a une dimension où, ce qu'on disait, on peut améliorer à l'infini ces systèmes-là. On peut améliorer les algos, on peut avoir des robots qui vont plus vite, on peut consommer moins d'énergie, etc. Je peux prendre sur le côté un petit peu empreinte écologique, il y a les batteries, par exemple. Donc, on a des batteries. Au début d'Exotech, nos batteries, elles duraient 3 ans. Alors en tournant 24-24, donc c'est déjà bien intensif, mais au bout de 3 ans, il fallait les changer. On a réussi à faire une deuxième génération, on est à 5 ans. Là, on travaille sur une future génération, on espère arriver à 10 ans. Donc voilà, il y a plein d'axes d'amélioration. Et le deuxième, ça va être étendre la gamme produit. Donc l'entrepôt, c'est un terrain de jeu qui est chouette. Là, pour l'instant, on a fait, je dirais, un peu le moteur de l'entrepôt. C'est comment je rassemble les articles. Après, de la porte d'entrée où il y a un camion qui arrive jusqu'au moteur, et du moteur jusqu'au camion qui va expédier, il y a encore plein de trucs qu'on peut faire. Et donc là, sans pouvoir tout révéler, on a encore des éléments qu'on va étendre.
Dans les cartons, très très intéressant. Pour ceux qui ont été passionnés comme nous, j'imagine, de toute cette merveille que vous êtes en train de concevoir et qui voudraient y participer, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que vous recrutez? Quel genre de poste?
Donc on recrute et à nouveau, sur la robotique, il y a plein de métiers différents. Là, je pense que ça vaut le coup de parler plus des métiers software. Mais donc déjà en software, la R&D, elle est faite en France sur 2 sites, à Lille et à Lyon. Et donc les stacks vont être super différentes, allant à nouveau du C embarqué, bas niveau, du C++, des maths appliquées, du machine learning, de la vision, du Java sur du software business et du web. Je crois que j'ai rien oublié sur un peu les différentes stacks. Et donc ensuite, la façon on est, par exemple, sur Welcome to the Jungle, où bien évidemment, on a une page carrière, où c'est un petit peu décrit ce qu'on fait, où il y a plein d'offres qui sont, je sais pas combien on a d'offres en R&D ouvertes, mais au moins 50. Okay, donc on doit pouvoir trouver son bonheur. Et après, ceux qui sont passionnés, on a régulièrement aussi des gens juste qui arrivent avec une candidature libre en disant, moi j'adore ça, je sais faire ça, comment ça résonne chez vous?
Ou alors vous allez l'année prochaine.
À l'ExoLégende l'année prochaine, exactement.
Et peut-être que si vous faites un robot particulièrement dévastateur, vous vous ferez repérer.
En tout cas, ceux qui organisent l'ExoLégende, c'est des ultra motivés d'Exotech. Là, je crois que la team qui l'organisait, c'était 60 personnes, en comptant les arbitres, la logistique, les gens qui s'entraînaient sur Twitch, etc. donc oui, il y a plein de communications. Je crois qu'il y avait 50 équipes de 3 personnes, donc 150 participants pour 60 Exotech. Ça permet de discuter dans tous les sens. Ouais.
Trop stylé. Hyper intéressant. Et merci encore de ton temps. J'espère que tu vas avoir ton train, c'est bon?
Voilà. C'est bon.
Ouh, je pense que on avait prévu un peu large.
Ouais, merci beaucoup.
Merci beaucoup d'être venu.
À une prochaine fois, en espérant que tout ça vous a plu et que c'était pas trop pointu, pas trop barbu. Mais
j'ai trouvé ça super intéressant.
Franchement, moi aussi. On a essayé de s'appliquer.
Ouais, franchement, ça va.
Franchement.
Et surtout, il y avait des belles images, donc franchement, ça va.
Ouais. Les images de robots, moi je ne m'en lasse pas. Je pense que j'ai un problème, mais je ne m'en lasse pas.
Non, c'est très très satisfaisant. Ça pourrait faire des TikTok. Tu sais, il y a un concept de vidéo satisfaisant.
On peut faire des mèmes, à mon avis.
C'est possible. Il y a quelque chose.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.